Frères et sœurs, permettez-moi un mot personnel avant de commencer ce culte, tout simplement pour vous dire ma joie d'être avec vous ce matin à l'oratoire, ma joie de revoir des visages connus, mais aussi de voir des visages nouveaux. Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Seigneur, nous te remercions pour ce rendez-vous, pour ce temps mis à part dans notre vie. Que ce soit un temps de recueillement, un temps d'apaisement, un temps d'écoute et de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenions à vivre en communion avec Jésus le Christ et les uns avec les autres. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier chant spontané que vous trouvez sur la petite fiche de votre cantique ou de votre psautier. Nous louons le Seigneur avec les mots d'une prière de sœur Myriam, qui fut prieure des diaconesses de Reuilly. Que tu puisses, Seigneur, Dieu de l'univers, demander quelque chose à l'être humain que je suis, demeure pour moi le plus grand des mystères. Mystère plus grand que celui de la Voie lactée, de la germination des plantes et des marées d'équinoxe. Je ne saurai jamais, tant que durera le monde, pourquoi ton règne de lumière fut ainsi confié à nos insuffisances. Mais tout émerveillé, je m'écris, qu'est-ce que l'humain pour que tu penses à lui? Que tu puisses, Seigneur, Dieu de l'univers, donner de toi-même à ceux que nous sommes et supporter tout ce qui nous fait différents de toi, que tu puisses accepter pour ton règne de lumière, pareille dissemblance, et nous laisser à notre place, afin que nous te célébrions, demeurera pour nous le plus grand des mystères. Mais tout émerveillé, nous nous écrions, qu'est-ce que l'humain pour que tu penses à lui? Que tu puisses, Seigneur, Dieu de l'univers, ne pas trouver de repos avant de nous avoir tous sauvés. Que nous soyons destinés à vivre plus longtemps que les astres dans l'au-delà des nuits. Que nous soyons destinés à n'être que demain ce qu'aujourd'hui nous sommes, demeurera toujours le plus grand des mystères. C'est pourquoi nous nous écrions, qu'est-ce que l'humain pour que tu penses à lui? Et en écho à cette prière, nous chantons le magnifique psaume 92, et je vous invite à chanter les quatre strophes. vous invite à vous asseoir. Dieu notre Père nous ouvre une route où il nous indique comment vivre. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez, par amour, serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si un frère ou une sœur n'ont de quoi se vêtir et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est bien à l'amour que vous montrerez les uns pour les autres que le monde saura et verra clairement que vous êtes mes disciples. Amen. Seigneur, notre Père, nous voici rassemblés ce matin, tous devant toi, fraternellement rassemblés, tous et chacun avec ce qu'il porte dans son esprit, dans son cœur, dans sa conscience, de parfois lourd, de parfois joyeux aussi. Et c'est bien tout cela que nous te remettons ensemble, et chacun. Notre Dieu, proche et pourtant si différent, fais en sorte que ta personne soit reconnue. Fais en sorte que ton amour et ta justice gagnent. Fais en sorte que ce que tu veux advienne sur la planète Terre, dans l'univers, comme dans ton domaine. Pardonne-nous de ne pas nous satisfaire du pain de ce jour, mais de vouloir sans cesse accumuler le plus de sécurité possible. Pardonne-nous aussi de manger souvent le pain rassis de la rancune. Pardonne-nous notre insensibilité aux malheurs d'autrui, aux injustices, et de nous en laver les mains. Oui, Seigneur, tu es aux commandes. Ton projet pour le monde et pour nous est le meilleur. Ton honneur doit être sauf. Amen. Frères et sœurs, Dieu est amour. Il entend notre prière. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus le Christ, notre péché nous est pardonné. Par l'Esprit de sainteté, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur chaque jour l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Pardonnés et libérés, nous pouvons à nouveau, d'une voix claire et d'un cœur léger, confesser notre confiance et notre foi en Dieu. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tout être humain et à toute créature. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu nous donnes la vie. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, il n'y aura qu'une lecture biblique aujourd'hui qui se situe dans le livre de la Genèse au chapitre 48. Juste un mot d'explication pour ce choix qui ne vient pas au hasard, c'est que je travaille sur le cycle de Joseph depuis plusieurs mois déjà, pour inviter à une lecture interculturelle des textes, des récits qui se trouvent dans ce cycle de Joseph, parce qu'il y a plein de thèmes anthropologiques et psychologiques et théologiques fondamentaux qui sont extrêmement riches pour des échanges entre des personnes de différentes cultures. Donc j'ai beaucoup travaillé, donc ce matin j'ai eu envie de partager avec vous un des derniers récits que j'ai travaillé. Et il s'agit donc de la bénédiction des fils de Joseph. Après ces événements, donc ces événements en question, c'est que toute la famille est descendue en Égypte. Après tous les stratagèmes de Joseph, il a réussi à faire venir également son père. Le pharaon leur a donné une terre. Donc après ces événements, on avertit Joseph que son père était malade. Il partit avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Lorsqu'on annonça à Jacob que son fils Joseph venait lui rendre visite, il fit un effort et s'assit sur son lit. Il dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai de nombreux enfants pour faire de toi l'ancêtre d'un ensemble de peuples. J'accorderai ce pays à tes descendants en propriété définitive. » Jacob ajouta, « Tes deux fils nés en Égypte, avant que je vienne t'y rejoindre, je les considère comme mes fils. Éphraïm et Manassé sont miens, comme Ruben et Siméon. Mais les fils qui te naîtront après eux resteront les tiens. C'est dans le territoire de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. » À ce moment-là, Jacob aperçut les fils de Joseph et demanda, « Mais qui est-ce ? » ?»« Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici, en Égypte, » répondit Joseph. Son père reprit, « Amène-les près de moi pour que je les bénisse. » Jacob était si vieux que sa vue avait beaucoup baissé. Il ne voyait plus grand-chose. Joseph fit approcher ses fils. Jacob les serra contre lui et les embrassa. Puis il dit à Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage et voilà que Dieu me permet de voir même tes enfants. » Alors Joseph retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père et il s'inclina jusqu'à terre. Ensuite, il prit ses deux fils par la main, Éphraïm, qu'il tenait à sa droite, se trouva à gauche de Jacob, et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouva à droite de Jacob. Il les fit de nouveau approcher de leur grand-père. Mais Jacob croisa ses mains. Il posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, bien qu'il fût le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Et voici la bénédiction qu'il donna à Joseph. Je prie le Dieu devant qui mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu, le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours, l'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ces garçons, que grâce à eux mon nom survive, comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac, qu'ils aient de très nombreux descendants partout dans le pays. » Joseph fut choqué de voir son père poser la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il lui saisit la main pour la déplacer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé en disant, « Non, mon père, tu te trompes, c'est celui-ci l'aîné, mets donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et lui dit, « Je sais, mon fils, je sais. Les descendants de Manassé aussi deviendront un grand peuple, pourtant son frère cadet sera plus grand que lui et ses descendants formeront une multitude de nations. » Ce jour-là, il leur donna sa bénédiction en ces termes. « Les Israélites se serviront de vos noms pour prononcer des bénédictions. Ils diront que Dieu te traite avec la bonté qu'il a montrée à Éphraïm et Manassé. » Ainsi, Jacob plaça Éphraïm avant Manassé. Il dit ensuite à Joseph, « Je vais bientôt mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous ramènera dans le pays de vos ancêtres. Quant à moi, je t'attribue une part plus importante qu'à tes frères. Je te donne la région de Sichem que j'ai conquise sur les Amorites grâce à mon épée et à mon arc. » Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 190, les quatre strophes. Nous prions. Seigneur, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole et que notre cœur demeure brûlant tandis que tu nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de nos vies sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde nos existences et leur permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit pour nous vérité de notre existence, lampe devant nos pas. Frères et sœurs, le choix de ce texte nous oblige ou nous permet de faire un petit retour à notre école biblique, parce qu'en général, c'est au moment de l'école biblique particulièrement qu'on se penche sur toutes ces histoires de la Genèse et sur cette magnifique et longue histoire de Joseph. Alors, un petit rappel néanmoins pour dépoussiérer nos mémoires. Vous vous souvenez que Joseph est ce fils bien-aimé de Jacob, vendu par ses frères, qui sont jaloux de lui, rien n'est nouveau sous le soleil, et qui, parvenu en Égypte, devient le ministre de Pharaon grâce à son charisme d'interprète des songes, mais grâce aussi à ses talents d'économiste, qui lui permirent de sauver l'Égypte de la famine, ainsi que les peuples alentours et sa propre famille, venue de Canaan, car à ce moment-là, c'est bien toute la région qui est frappée par la sécheresse. Après de multiples rebondissements, toute la famille de Joseph finit donc par descendre en Égypte et s'y installer dans la région de Goshen, vers le delta du Nil, où il y a suffisamment de pâturage pour les troupeaux. Alors, une question va se poser. Les Hébreux vont-ils s'installer durablement en Égypte, où le pharaon de l'époque, qui sans doute apprécie beaucoup les services de Joseph, leur fait un accueil extrêmement favorable, ou bien n'est-ce qu'une résidence provisoire liée aux circonstances de la sécheresse et de la famine ? Question cruciale. Joseph semble pencher pour la première solution. Joseph est devenu à moitié égyptien. Il a même reçu un nom égyptien. Il a épousé Osnath, fille d'un prêtre égyptien, dont il a eu deux fils, donc nés en Égypte. Cependant, il garde quand même une part, pour une bonne part, son identité. Il a donné à ses deux fils deux noms hébraïques. Manassé, dont la racine signifie l'oubli, dans le sens de l'oubli des épreuves, et Éphraïm, dont la racine signifie le fruit, la fécondité, la fructification. Donc, on peut imaginer que Joseph se réjouit. On pourrait très bien actualiser la scène, d'ailleurs. Joseph se réjouit d'avoir fait venir toute sa famille, de les avoir accueillis, d'avoir retrouvé son père et réuni tout le monde autour de lui dans son pays d'exil, qui est aussi le pays de sa réussite. De plus, Joseph a sa propre interprétation théologique. Il interprète tout cela comme un don de Dieu, puisque Dieu a transformé en bien le mal que ses frères ont voulu lui faire, afin qu'il puisse sauver un peuple nombreux. Donc Joseph, c'est un peu l'hébreu ou le juif diasporique. Cependant, Jacob, de son côté, semble penser différemment. Dès son arrivée, il a fait promettre à son fils Joseph que le moment venu, il l'enterrerait avec ses pères au pays de Canaan. On a donc deux visions qui sont différentes et qui peuvent même sembler contradictoires. Pour Joseph, on peut être hébreu en diaspora. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants et il les soutient là où ils sont. Comme on l'a vu, il a même un plan de salut qui passe par l'exil. Pour Jacob, l'alliance qui s'est transmise depuis Abraham est liée à la promesse d'une terre qu'il est impossible d'oublier et d'abandonner. Et ce sont ces deux lignes-là, d'ailleurs, qu'on retrouvera dans la tradition juive, puisqu'on trouvera deux lignes messianiques, le Messie, alors on ne dira pas selon Jacob, mais selon Judas, qui reprendra la vision de Jacob, et le Messie selon Joseph. L'exil, la diaspora d'un côté, la terre d'Israël de l'autre. La question qui va se poser aussi, c'est, nous sommes dans un moment, vous avez vu, quand même intense et dramatique, puisque Jacob est malade et on voit qu'il approche de sa fin, que transmettre à ses enfants quand on sent la mort venir? Jacob sent ses forces l'abandonner et il lui importe maintenant de transmettre son héritage. L'héritage, bien sûr, ce n'est pas seulement une question de biens matériels, même si c'est important dans les familles, mais aussi et surtout une affaire d'orientation spirituelle. Car la conscience d'être mortel, que nous fuyons d'ailleurs généreusement dans notre société, cette conscience d'être mortel et fragile, enfin que nous essayons de fuir, mais elle nous rattrape, la conscience d'être mortel, la conscience que le terme de la vie est proche, oblige et permet de se recentrer sur l'essentiel, sur le sens de l'existence et sur l'urgence de transmettre à qui de droit ce qui lui revient. Et c'est par des bénédictions que Jacob va transmettre ce qu'il pense devoir transmettre, d'abord à ses petits-fils, donc dans notre récit, puis ensuite à ses fils dans le chapitre suivant. Mais dans notre récit, nous voyons une chose quand même un peu étrange, c'est que Jacob s'approprie les fils de son fils Joseph. Il l'exprime clairement en les mettant au même niveau que ses fils aînés, Ruben et Siméon. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Est-ce une manière pour Jacob de réparer les effets de l'exil en instituant ses petits-fils comme héritier direct? Je pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Est-ce une méfiance par rapport à Joseph, l'homme de la diaspora? Joseph serait-il devenu un peu trop étranger à son père, Jacob? Ceci nous pose aussi à tous les questions des structures de la parenté. Qui a autorité sur les enfants? Quels sont le rôle et la place des grands-parents, mais aussi des oncles et tantes? Dans les familles africaines, par exemple, les oncles et tantes ont énormément d'importance. Comment se joue la transmission entre les générations? À l'heure d'ailleurs d'aujourd'hui, où souvent 4 générations vivent en même temps et même parfois 5. Comment nous-mêmes vivons-nous ces questions? Comment les parents considèrent-ils l'intervention de leurs propres parents dans l'éducation de leurs enfants? S'agit-il pour les grands-parents d'un droit, d'un devoir ou bien d'une ingérence insupportable? Les réponses à ces questions seront certainement différentes selon les époques, selon les sociétés, selon la manière dont on considère la famille. De plus, nous voyons encore quelque chose qui retient notre attention, et d'ailleurs qui a retenu celle de Joseph, bien sûr, c'est que Jacob va inverser les bénédictions entre Éphraïm et Manassé sous l'œil mécontent de Joseph. Il devrait bénir donc de la main droite l'aîné de ses petits-fils, Manassé, de sa main gauche, Éphraïm, qui est le cadet, et il fait l'inverse. Ceci, bien sûr, semble reproduire une situation déjà vécue, quoique de manière différente. Nous nous souvenons tous de Jacob, qui avait obtenu la bénédiction de l'aîné au détriment de son frère Ésaü, en profitant de la mauvaise vue de son père Isaac. Jacob lui-même, d'ailleurs, il est dit dans notre texte, à la vue basse. Néanmoins, il sait et revendique ce qu'il fait, et c'est ce qu'il rétorque à Joseph mécontent, « Éphraïm sera plus grand que Manassé ». Voilà, on a en germe là, encore une histoire de conflit, de rivalité et de haine fraternelle. Alors, si on se réfère à l'étymologie de leur nom, on peut se dire que peut-être que Manassé, qui a quelque chose à voir avec l'oubli, est forcément plus tourné vers le passé, tandis qu'Éphraïm, le fruit, la fécondité, est tourné vers l'avenir. Mais n'est-il pas nécessaire d'oublier la souffrance et les épreuves pour pouvoir avancer et fructifier? D'une certaine manière, il ne saurait y avoir d'Éphraïm sans Manassé. Chacun joue son rôle. En tout cas, ces tribus d'Éphraïm et Manassé formeront, avec huit autres tribus, le royaume du Nord, Israël, tandis que le royaume du Sud sera composé des tribus de Juda et de Benjamin. On se retrouve donc toujours avec cette même réalité biblique à laquelle nous tenons, que la vocation personnelle donnée par Dieu ne respecte pas forcément les lois naturelles ou coutumières. Et c'est vrai que très souvent, le second a un rôle prépondérant par rapport à l'aîné. On le verra encore d'ailleurs au chapitre suivant, puisque Jacob, quand il bénira ses fils, annoncera que Juda portera le sceptre royal, que Joseph sera le chef de ses frères, et non Ruben, qui est pourtant l'aîné de tous les enfants de Jacob. La question qui se pose alors, depuis Caïn et Abel, c'est bien celle de la rivalité. C'est quand même la grande question, c'est l'un des problèmes fondamentaux de l'anthropologie, de la psychologie et de la politique en général. La question de la rivalité, la question de la jalousie. Comment organiser les relations humaines et sociales pour que la rivalité et la jalousie n'exercent pas leur pouvoir destructeur? C'est terrible, frères et sœurs, mais on en revient toujours là. La réponse de Jacob, c'est, au-delà de la distinction qu'il fait entre les deux, de les associer dans la bénédiction. Je prie le Dieu devant qui mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu, le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours, l'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ces garçons. Que grâce à eux, mon nom survive comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. Autrement dit, Jacob associe Éphraïm et Manassé au regard du passé, au regard de la vocation et de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac, dont ils sont héritiers. En tant qu'héritiers, ils sont unis, mais également au regard de l'avenir, puisque ensemble, ils seront eux-mêmes signes de bénédiction. Les Israélites se serviront de vos noms pour prononcer des bénédictions. Ils diront que Dieu te traite avec la bonté qu'il a montrée à Éphraïm et Manassé. Éphraïm et Manassé sont héritiers de la bénédiction d'Abraham. Éphraïm et Manassé ensemble sont responsables de la bénédiction pour les générations à venir. Ça veut dire que, à travers les bénédictions qu'il exprime, Jacob est en train de fonder l'unité et l'avenir d'un peuple. Ce qu'il nous dit donc, c'est que nous ne pouvons et nous ne pourrons sortir de nos histoires de rivalité qu'en nous plaçant ensemble sous la bénédiction de Dieu et qu'en nous situant ensemble, de manière collégiale, de manière communautaire, de manière collective, dans l'héritage de ceux qui nous ont précédés et dans la responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Ensemble, avec nos différences, mais ensemble, les uns pour les autres, comme Manassé est pour Éphraïm et Éphraïm est pour Manassé. Seule cette unité permet de briser le pouvoir mortifère des rivalités et de la jalousie. Autrement, on arrive vite dans le chacun pour soi. C'est la victoire de toutes les passions d'amour propre qui l'emporte. Et on sait que quand ça commence, quand ça se réveille, la passion d'amour propre, ça se met à galoper. Quelle responsabilité alors confier à nos enfants et à ceux qui nous suivent? Tous, nous désirons transmettre le meilleur à nos descendants. Pour Jacob, le meilleur, c'est l'alliance. Et cette alliance est liée à une terre, à la terre d'Israël. C'est donc cela qu'il veut transmettre. Alors qu'il se sent proche de la mort, et que cette mort aura lieu en Égypte, Jacob réaffirme l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et sa postérité, et qui concerne non seulement la constitution d'un peuple, mais aussi le lieu d'existence de ce peuple. Et il dit, « Voici, je vais mourir, Dieu sera avec vous, et il vous ramènera au pays de vos pères. » Par conséquent, non seulement Jacob va demander que son corps soit ramené dans le tombeau de ses pères à Mamré, mais il va annoncer que ses descendants retourneront dans ce pays des pères. Le pays des pères n'est donc pas seulement une terre de passage, un lieu du passé, un lieu de la mort, mais aussi un lieu pour l'avenir et pour la vie. Et c'est Dieu qui va faire cela. Alors, à partir du moment où Jacob inscrit ce retour comme une espérance, et on sait l'écho que donnera à cette espérance toute la littérature prophétique dans la Bible, il signifie aussi qu'il est impossible, ou difficile en tout cas, de s'installer durablement en exil, en Égypte. Et pourtant, on l'a dit, il semble que Joseph, tout en restant lui-même, ait pensé différemment. Du moins jusqu'au moment où il demandera lui aussi que ses ossements soient transportés en Canaan. Cette problématique est extrêmement intéressante, frères et sœurs, car elle nous concerne tous aujourd'hui. Notamment, tous nos frères et sœurs qui vivent dans notre pays en venant d'un autre pays. Quand nous vivons donc dans un pays, d'un autre pays que celui de notre naissance et de nos pères. Quelle responsabilité alors confions-nous à nos enfants ? Est-ce que c'est de rester là où nous vivons ? Est-ce que c'est de rester ici aujourd'hui en France, de planter de nouvelles racines et d'y trouver le sens spirituel, existentiel, social d'une nouvelle existence ? Ou est-ce que c'est de préparer un retour au pays ? Et pour quelle raison ? Et pour quelle mission ? Ce peut être seulement par nostalgie ou pour apaiser les douleurs d'un exil qui a été mal vécu. Car un tel retour, en ce cas-là, est se réorienter vers le passé, vers la mort. Or, le retour au pays ne pourra être fructueux que s'il se fonde sur une vocation et une mission pour la vie. Vocation et mission donneront la force de vivre un retour qui jamais n'est facile, car il y a toujours une mer rouge et un désert à traverser. Il y a quelque temps, nous avons reçu au DEFAP, en accord avec la Fédération protestante de France, quelques Kanaks, une délégation des églises de Nouvelle-Calédonie. J'ai eu l'occasion justement de m'entretenir sur ce sujet avec nos frères et sœurs Kanaks, qui étaient là, donc des adultes, des responsables d'église, par rapport aux jeunes Kanaks qui viennent faire leurs études en France. Après le bac, il y a un service qui s'appelle ABS, après bac service, et où ils passent plusieurs années en France et certains font des études extrêmement brillantes. Et en général, ils ont tous toujours le projet de retourner au pays, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est la France, hein, mais en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons évoqué les difficultés, justement, souvent de ce retour. où on leur fait remarquer qu'ils sont devenus français, entre guillemets, qu'ils sont devenus métropolitains, qu'ils n'ont plus grand-chose à voir avec la terre des ancêtres, qu'ils sont en décalage. Et très souvent, c'est très difficile finalement pour eux de se réinsérer alors que justement, ils sont porteurs d'une mission, d'une vocation pour leur terre. Et donc, il leur faut beaucoup de courage et de ténacité pour tenir. C'est un exemple, mais on pourrait évoquer beaucoup d'autres exemples. Nous pouvons également interpréter de manière symbolique cette question de retour ou de non-retour que nous posons à nos enfants et à nos descendants. La terre de Jacob-Israël peut être comprise autrement que dans un sens géographique. Ce sont peut-être nos idéaux anciens, nos espérances d'autrefois, ou encore les traditions que nous avons reçues de ceux qui nous ont précédés, quelquefois les métiers, les savoir-faire, les modes de vie. En tout cas, un monde que peut-être nous avons dû plus ou moins quitter, quelquefois par la force, quelquefois par choix, par esprit d'aventure. Certains d'entre nous, comme Joseph, s'adapteront très bien au nouveau contexte, aux nouveaux défis. Ils inscriront leurs enfants dans cette dynamique d'adaptation. Peut-être que d'autres, comme Jacob, seront plus soucieux de transmission d'un héritage et peut-être compteront-ils sur leurs descendants pour en reprendre la responsabilité. On peut penser par exemple aux familles pastorales, hein, la manière dont se transmet ou non la vocation au ministère pastoral. Mais ce qui reste essentiel, c'est que, quelle que soit la sensibilité ou l'orientation de chacun, plus vers Jacob ou plus vers Joseph, tous portent la même bénédiction. Tous nous portons la même bénédiction, celle qui vient d'Abraham, celle qui devra être transmise aux générations futures. Tous forment un peuple. Dieu bénit Jacob, Dieu bénit Joseph, Dieu bénit Éphraïm et Manassé. Ce que nous apprenons de fondamental dans notre récit et dans toute l'histoire de Joseph, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais, quel que soit le lieu où nous résidons, ici ou ailleurs, sur la terre promise, ou en diaspora, ou en exil. Il nous invite simplement à vivre de sa vie à lui, à faire rayonner sa présence et son amour au milieu de ceux avec lesquels nous demeurons. Car en tout temps et en tout lieu, et ça c'est aussi la grande, grande leçon de Joseph, il est celui qui transforme en bien le mal dont nous souffrons ou dont nous avons souffert. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever pour chanter le Te Deum, donc le cantique 69, et nous chanterons les strophes 1, 7 et 9.
Merci Gérard. Voici le temps des annonces. En ce dimanche, nous remercions Florence Thomann pour sa prédication et j'espère que nous saurons accueillir la bénédiction de Dieu, chacun et tous ensemble. Merci à Aurélien Peter pour son accompagnement à l'orgue et merci à ceux qui s'occupent de la garderie. Les vacances scolaires vont faire que dans les dimanches suivants, la garderie ne sera pas assurée. Tout à l'heure, il y a les dimanches après-midi de l'oratoire. Ceux qui peuvent y participer, nous nous réunissons dans la grande sacristie pour un pique-nique tiré des sacs et ensuite nous irons au musée du Louvre dans le département des sculptures alémaniques. C'est une proposition de Claude Riffet, Étienne Trouvert et moi-même. Lundi 18 février, il y a l'hébreu biblique pour avancer de 19h à 21h. Animé par Christophe Simienski, salle Verne. Mardi 19 février, de 20h à 21h30, Société en débat. Cette année, le cycle est sur les thèmes des aspects mythiques de la santé et de la maladie. Et Samuel McCain, agrégé de lettres modernes, nous propose comme titre « Les médecins dans le roman, des lumières au réalisme ». Venez nombreux, ça doit être intéressant. Mercredi 20 février, les jeunes de l'oratoire, de 19h à 22h30, se réuniront uniquement en salle mono, 4 rue de l'oratoire, pour une soirée assez particulière sur le thème de l'écologie. C'est en présence de Laura Morosini, qui est la fondatrice de l'association Chrétiens Unis pour la Terre et responsable du label Église Verte. Cette soirée sera animée par les pasteurs Cléromazier et Rive. Venez nombreux aussi, ça s'adresse aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes actifs. Jeudi 21 février, le chœur de l'oratoire va répéter toute la journée, de 10h à 17h, salle mono, sous la direction de Francis Aubé. Je mélangeais son prénom, Fabien Aubé, pardon. Et quant au dimanche 24 février, il sera animé par le pasteur Cléromazier avec David Cassan à l'orgue et il sera suivi d'un moment d'accueil et de rencontre. Avant que je ne vous demande de vous montrer généreux pour la collecte, je vais passer le micro à notre très cher président. J'ai failli dire notre président bien-aimé, il a une annonce à vous faire.
Chers amis, bonjour. En effet, je pense que beaucoup d'entre vous êtes impatients de savoir quelle est la finalité et la finalisation de la composition de notre équipe pastorale. Eh bien, j'ai la joie de vous dire que mercredi dernier, le Conseil presbytéral, au cours de sa réunion statutaire, a décidé d'appeler à l'unanimité de tous les participants le pasteur Agnès Adeline Schaeffer, qui rejoindra l'équipe pastorale, donc Béatrice Cléromazier, le 1er septembre prochain. Voilà, notre équipe est donc constituée pour un nouvel élan et poursuivre la route de l'oratoire. Et nous en sommes très heureux. Vous avez entendu Agnès il y a quelque temps, au mois de janvier. Elle fait aujourd'hui l'annonce à la paroisse de Clamart, où elle était en poste. Et donc, déjà, nous avons pris contact avec elle et avec le conseil, avec l'accord, bien sûr, du conseil régional et Bertrand Cazenove, qui est très heureux de cette nouvelle. Bon dimanche à tous. Et puis, je crois que maintenant, c'est effectivement le temps de l'annonce, de la collecte.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Père, comme les disciples vers Emmaüs, tu envoies aujourd'hui des hommes et des femmes te rencontrer dans nos frères et sœurs du monde entier. Merci de leur donner le courage d'abord de quitter une vie parfois sécurisante, des habitudes, une famille, pour un chemin insolite, incertain. Mais c'est toi qui les entraînes, Seigneur. Tu leur permets non seulement de voir, mais de regarder des visages inquiets, des regards fuyants, des mains qui n'osent pas se tendre, mais aussi de faire naître des sourires, des regards pétillants, le regard pétillant de ceux qui se sentent compris, aidés, écoutés, aimés. Seigneur, tu nous appelles à regarder autour de nous, car la mission, c'est aussi ici, à côté. Donne-nous de voir, de savoir, nous aussi, aller vers les autres. Apprends-nous à comprendre leurs besoins, leurs désirs, à ne pas les enfermer dans ce qu'ils sont aujourd'hui, mais à leur ouvrir une porte vers un avenir meilleur. Oui, comme toi, ô Jésus, avec tes disciples, donne-nous le désir d'aider avec ta patience. Que nous sachions aussi dire « Lève-toi et marche ». Que ton Esprit Saint nous donne la force d'être des missionnaires au fond de notre cœur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pays accablés par la misère, l'instabilité politique, les conflits et les catastrophes naturelles. Suscite en tout lieu des personnes de bonne volonté, des porteurs d'espérance. Que les jeunes générations se sentent encouragées, appelées, portées par leurs aînés dans la responsabilité qui est et sera la leur, de bâtir un monde plus juste, plus soucieux de la création et de toutes les créatures. Seigneur, nous te remettons tous ceux que nous te nommons dans le secret de notre cœur. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Pour cette parole d'envoi, c'est encore avec les mots de la règle de Reuilly que je vais l'exprimer. Servez le Seigneur, servez le temps présent. Soyez attentifs à ce temps, soyez une bénédiction pour les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez le Seigneur, bénissez les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Servez le Seigneur, faites le bien devant et avec les hommes et les femmes de ce temps. Ne vous laissez pas vaincre sous le mal de ce temps, mais surmontez le mal par le bien. D'un esprit fervent, servez le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Il fait briller sur vous son visage et il vous accorde sa grâce. Il tourne vers vous son visage et il vous accorde sa paix. Allez dans la joie, dans la confiance et dans la reconnaissance. Amen.